Venezuela en Uruguay y Callao Oriental. Cierre fui totalmente
que si se dice que un vacío canto un gage, un combinó de decisión de disposición para la porta.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le secrétaire général des Nations Unies plaide pour l'autonomisation de la femme dans l'éradication de la faim et la pauvreté. Il l'a exprimé ainsi lors de la célébration ce 15 octobre de la Journée mondiale de la femme rurale. Selon la directrice de l'ONU Femmes, les femmes rurales sont les piliers de la réalisation des profonds changements économiques, environnementaux et sociaux nécessaires au développement durable. Comment impliquer la femme rurale dans la lutte contre la faim et la pauvreté en RDC? 081-890-4969, le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission coordonnée réalisée par J.R. Lungembo. Gumanzangu assure la mise en onde et Pierrot et la Meiji vous la présentent sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Le monde a célébré le 15 octobre dernier la Journée mondiale de la femme rurale. Une occasion pour nous d'en parler aux auditeurs de nous pencher sur la femme rurale en RDC. Comment peut-elle être impliquée dans la lutte contre la faim et la pauvreté? Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Appelez-nous au 081-890-4969. L'honneur aux dames, bien sûr, hein, parce qu'elles sont déjà avec nous dans cette émission pour commenter ces sujets, nous dire ce qu'elles font sur le terrain pour faciliter à la femme rurale congolaise d'être impliquée dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Madame Gogo, vous êtes avec nous dans cette émission. Vous nous appelez des Goma. C'est dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour.
Et dans votre structure, dans ce que vous faites sur le terrain, alors, quelles sont d'abord les difficultés auxquelles la femme rurale congolaise fait face avant que nous puissions proposer les pistes de solutions pour l'aider? Quelles sont d'abord les difficultés que rencontre la femme rurale congolaise?
Oui, la femme rurale connaît beaucoup de difficultés, comme vous venez de le dire. Et la première et la grande difficulté, c'est d'abord l'insécurité et la guerre. Parce que dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de villages en province du Nord Kivu, il y a la présence de groupes armés. Et cela fait que la femme soit dans une situation qui ne la permette pas de travailler et de s'impliquer dans le développement, dans la lutte contre la faim et la lutte contre la pauvreté. Donc, à cause de l'insécurité, la femme n'arrive pas à aller au champ, à bien travailler au moment où c'est la principale activité que la femme rurale a pour pouvoir arriver à se prendre en charge ainsi que toute sa famille. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, ce sont les violences sexuelles que connaissent cette femme rurale. Parce que dès qu'elle se déplace pour aller au champ, souvent, il y a des bandits qui l'embêtent, il y a des bandits qui peuvent l'approcher, la violer, et ça met la femme dans une situation difficile et même intolérable parce qu'il y a celles-là qui ont difficile à se déplacer pour aller au champ, bien que les autres se déplacent quand même pour y aller en fait de pouvoir se retirer de quelque chose.
Et quand on regarde ces deux causes, madame, l'insécurité, les violences sexuelles, ces causes sont au-delà même des capacités de cette femme de pouvoir contribuer à trouver la solution à ça. Mais quand vous regardez un peu l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays, à la province du Nord Kivu particulièrement, et les plaidoyers que vous menez tout le temps, et tous les efforts fournis pour aujourd'hui permettre à cette femme de pouvoir s'épanouir, cette femme rurale, pensez-vous que les choses ont beaucoup évolué dans les bons sens où la situation de la femme rurale dans la province du Nord qui vous rester la même, où il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être fournis?
Oui, je sais que nous ne pouvons pas dire que nous sommes au point zéro, parce que c'est vrai comme vous venez de le dire, il y a des activités qui sont menées par différentes organisations de femmes dans le cadre de la participation à la recherche de la paix, la sécurité, la lutte contre les violences sexuelles basées sur les gens, ainsi que d'autres activités qui sont menées en faveur de la femme rurale. Cependant, il y a encore beaucoup à faire, parce que il y a encore la présence des membres de groupes armés. Il y a encore les groupes qui sont en train de massacrer la population comme ce que nous avons connu dans les territoires de Béni. Il y a les FDLR qui sont encore présents sur le territoire national congolais. Il y a encore d'autres petits groupes qui sont là, qui agissent et qui mettent la population en difficulté et notamment la femme rurale. Et donc, nous ne sommes pas au point zéro, comme je l'ai dit, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que je me rappelle qu'après la victoire des FARDC sur le M23, la priorité c'était d'éradiquer directement les ADF NALU. Et après les ADF NALU, les FDLR devaient suivre. Mais jusqu'à présent, il y a encore du travail à faire parce que cela n'est pas encore fait, parce que nous voyons ce que ces membres-là des groupes armés sont en train de faire et qui mettent la population en difficulté et notamment les femmes.
Et s'il arrive aujourd'hui, il y a quand même des localités où on peut retrouver l'autorité de l'État, et même ce que vous faites dans d'autres villages qui sont assez sécurisés, hein, ou peut-être qu'il n'y a pas de groupes armés qui s'évitent dans ces villages-là. Alors, comment ces femmes-là, quitte à mieux que mal, avec toutes ces difficultés, peuvent alors aujourd'hui contribuer à l'éradication de la faim et la pauvreté, au cas où elles sont libérées de l'emprise des groupes armés?
Oui, c'est notre grand souci de voir tout le contrée libérée. Et là où il y a l'autorité vraiment qui assure la sécurité, il y a encore un problème, c'est l'encadrement de ces groupements-là de femmes par les services de développement rural. Il faudrait que ces services-là renforcent ces activités en faveur de la population rurale qui est majoritairement constituée de femmes.
Merci beaucoup, madame. Il faudrait que une fois l'autorité de l'État rétablie dans les contrées où les femmes rurales subissent des difficultés, qu'il y ait un travail des synergies, le ministère du développement rural puisse avoir des programmes qui permettent à ces femmes de pouvoir se développer, de pouvoir travailler pour contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté. Et Madame Gogo, nous vous disons merci hein, de ces témoignages, de cette intervention. Vous êtes à Goma, dans la province du Nord Kivu. On a aussi beaucoup d'autres femmes en ligne, comme Madame Béatrice, qui est à Kisangani, à Bukavu, partout où vous êtes. Appelez-nous au 081-890-4969 pour intervenir en direct et nous donner votre point de vue. Comment la femme rurale en RDC peut-elle être impliquée dans la lutte contre la faim et la pauvreté? Madame Gogo, nous vous disons vraiment merci de ce temps que vous nous avez donné sur les antennes des Radio Capi. Au revoir.
Au revoir.
Parole aux auditeurs.
Et Madame Béatrice, vous êtes à Kisangani, en province orientale. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi ce que disait Madame Gogo tout à l'heure pour la femme rurale au Nord Kivu, qui est sous l'emprise de l'insécurité, des groupes armés, la problématique des violences sexuelles, ce qui ne permet pas à cette femme de s'épanouir, de pouvoir travailler, de pouvoir fournir des efforts pour lutter contre la faim, la pauvreté. Et pourtant, c'est ça même le cheval de bataille dans la célébration de cette journée. Alors, en province orientale, la Kisangani et partout ailleurs où vous travaillez, vous menez des plaidoyers. Alors, quelles sont les autres difficultés auxquelles les femmes font face pour qu'elles n'arrivent pas à jouer ces rôles dans la lutte contre la pauvreté?
Merci, monsieur le journaliste. À part les causes que madame Gogo venait d'évoquer, il y a d'autres difficultés auxquelles les femmes rencontrent. Il y a la violence domestique dans les villages. Quand nous avons fait des sensibilisations, nous avons trouver la violence domestique dans les foyers affaiblit les efforts des femmes rurales et cela fait que les femmes n'ont pas le courage de travailler convenablement dans les foyers. Et les causes sont nombreuses. Il y a aussi comme cause la pauvreté généralisée des foyers il y a aussi les faits de santé qui ne sont pas bien bons, et aussi il y a des problèmes d'élèves, des enfants qui n'étudient pas et qui causent aussi des problèmes dans les foyers, l'alcoolisme des hommes est aussi parmi les causes des violences domestiques. Il y a beaucoup de causes. Mm-hmm. Il y a aussi la mauvaise gestion des revenus des foyers, et ce qui fait que les femmes ne se retrouvent pas dans la production du ménage.
Mm-hmm.
Il y a aussi les naissances qui ne sont pas bien préparées. Donc, les femmes accouchent sans préparer d'abord l'accouchement, et aussi les naissances sont très rapprochées, et ça fait que la santé de la femme n'est pas bonne, et elle n'a pas la force pour travailler.
Oui.
Et même pour garder ses enfants. Et les enfants sont mal nutris, les enfants ne mangent pas bien, et il n'y a pas une bonne collaboration avec l'homme et la femme. Donc, la femme rurale a beaucoup de problèmes.
Mmh. Alors, au regard de ce tableau, Madame Béatrice, on se rend compte qu'il faut fournir encore beaucoup d'efforts. La pauvreté généralisée des foyers, les violences domestiques, l'alcoolisme de l'homme, l'accès aux soins de santé, les naissances rapprochées, ça y a autant de problèmes qui entourent la femme rurale aujourd'hui. Alors, dans les efforts qui doivent être fournis, que ce soit du côté du pouvoir public, de partenaires, des ONG, alors, comment les interventions doivent-elles être canalisé pour permettre à cette femme rurale de jouer son rôle et d'être au centre même de la lutte contre la pauvreté et la faim, madame? Qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Pour que la femme parvienne à lutter contre la faim et la malnutrition, il faut que les femmes soient regroupées en coopérative, et travailler ensemble, et ensuite il faut aussi qu'on les encadre, renforcer leurs capacités dans leur travail. Les agronomes peuvent leur donner des leçons comment travailler pour bien produire, par exemple au champ. Les autres techniciens peuvent aussi les encadrer dans les petits commerces, et ainsi de suite. Et aussi, il faut aussi qu'il y ait le système de microcrédit aux femmes rurales. Et ce système-là peut donner un coup de pouce pour qu'elles puissent travailler convenablement.
Mm-hmm.
Et il ne faut pas laisser le système de maisons d'écoute. Il faut les écouter pour les orienter. Il faut faire cela pour les hommes et pour les femmes à la fois, pour que on puisse les accompagner dans les foyers, parce que c'est le foyer qui est la base même de la société. Et si le foyer ne marche pas bien,
c'est
la société qui ne va pas.
Mmh. Et ça sera difficile pour la femme rurale de pouvoir évoluer. Merci beaucoup, Madame Béatrice, de ces propositions. Vous êtes à Kisangani. C'est important ce que vous avez dit, au-delà de difficultés que rencontre la femme. Vous estimez que s'il y a moyen de pouvoir encadrer cette femme rurale, de permettre à ces femmes de se retrouver dans des coopératives, qui peuvent avoir accès à des microcrédits, s'ils peuvent être encadrés, que ce soit pour l'agriculture, le petit commerce, comment produire pour permettre à ces questions? C'est là, ce sont nos besoins de la communauté. Il faut des maisons d'écoute, il faut orienter et la femme et l'homme et les encadrer dans le ménage. Ça serait que la femme rurale en RDC soit dynamique et puisse vraiment jouer son rôle comme il faut dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame Béatrice. Vous êtes à Kisangani, dans la province, en province orientale. Nous allons à Kikwit dans le Bandundu. Cette fois, on va écouter un homme, Olivier. Vous êtes avec nous. Bonjour. Olivier, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous avez suivi, nous avons dit, bien sûr, dans tous les messages, la femme et les toutes les femmes rurales, surtout, sont comme un pilier, alors, pour l'économie locale, la protection même de l'environnement, autant. Mais vous avez suivi le trois témoignages que nous avons eus. Mais on n'a pas assez d'efforts qui accompagnent ces femmes dans leur milieu pour leur faciliter d'arriver vraiment à jouer ces rôles. Il y a l'insécurité, il y a tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, vous l'avez suivi par Madame Béatrice. Alors, pour vous, Olivier, comment alors la femme congolaise, la femme rurale congolaise, peut-elle vraiment arriver à jouer ses rôles convenablement dans la lutte contre la pauvreté et la faim?
Oui, voilà ce que je peux dire, c'est que depuis toujours dans ce pays, nous avons vécu grâce au travail des femmes. Alors, maintenant, actuellement, ça devient du théâtre. Souvenez-vous, il y a une année, on a célébré la journée du 8 mars sous le thème, justement, de l'autonomisation de la femme rurale. Mais c'est une année. Vous pouvez faire le bilan avec moi, vous ne verrez aucune action concrète qui a été menée. C'est pour dire que, quelque part, ça devient du théâtre, et on aurait dû utiliser ce slogan-là, la femme rurale, pour un peu distraire tout le monde. Qu'est-ce qui devait être fait? La première intervenante l'a dit. La sécurité, c'est un problème primordial, mais on ne prête pas attention à ce problème-là et personne ne s'en occupe. Vous savez, celle de Goma, elle a bien parlé, tout ce qui se passe dans l'Est là-bas, ben, la femme rurale de Beni, la femme rurale de Kitsis, ces deux femmes ne vivent pas la même difficulté. Il ne faudrait pas qu'on puisse traiter les problèmes de façon générale. On doit catégoriser. Aujourd'hui, on doit dire que la femme rurale ne peut rien faire pour le pays, puisque elle est mise dans des conditions telles que, en fait, même une personne, un homme ne peut pas travailler. Donc, quand vous allez à l'Est, vous allez dans les Katanga, il n'y a plus de travail pour les hommes comme pour les femmes. Ça signifie que le plaidoyer de Matek Obert, c'est bon. Mais je pense que nous devons, nous-mêmes d'abord, avant de faire intervenir nos partenaires, nous devons demander que la sécurité soit rétablie. Sinon, ça va être un slogan creux. La femme rurale est autonomisée. C'est un slogan creux et je pense que les responsables sont bien connus, ce sont les tenants du pouvoir. Il n'y a pas de sécurité dans le pays, on ne peut pas continuer avec des slogans qui vont nous distraire pendant 10 ans. Donc je suis désolé, je crois que c'est ça le premier problème, JR.
C'est Pierrot au micro, Olivier. Vous estimez que la responsabilité, d'abord, c'est le pouvoir public qui doit avoir des actions concrètes qui puissent faciliter à la femme rurale de jouer son rôle. Vous avez dit, les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. Celle de Kikwit, celle par exemple qui est à Chimbulu ou celle qui est par exemple à Mobayimongo n'a pas les mêmes problèmes que celle qui est à Beni, à Kassindi, compte tenu de l'insécurité. Mais d'un côté, il faut combattre l'insécurité. Mais par exemple, la femme qui est dans le Bandundu, la femme rurale de Bandundu. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme piste des solutions à ceux qui ont la possibilité, le pouvoir d'arriver vraiment à permettre à cette femme de jouer ses rôles? Qu'est-ce qu'il doit faire en principe, Olivier?
Autour de nous, ici, autour de Kikwit, les femmes rurales continuent à aller au champ, elles continuent à travailler. Mais très souvent, ce qui se passe, elles vont produire et il n'y a personne pour évacuer la production. Nous avons le problème de risque de cette agricole.
Oui.
Ce n'est pas la femme rurale qui doit résoudre ça. Alors, ça, c'est un problème qui relève des pouvoirs publics, encore une fois. Alors, tout ce qu'il y a dit sur ce dossier-là, en fait, ça fait mal au cœur, ça fait très mal de continuer à chercher la plus rurale lorsqu'on n'a rien à lui proposer comme solution concrète.
Alors, merci beaucoup, Olivier. Vous estimez que du côté du pouvoir public, il n'y a pas de solutions concrètes qu'on propose pour la femme rurale, mais de temps en temps, on évoque des termes comme des slogans. Mais vous estimez d'abord qu'il faut aujourd'hui entretenir, réaliser les routes de cette agricole, permettre à ces femmes de Bandundu qui produisent du maïs, du manioc, à pouvoir trouver des preneurs, des gens qui puissent acheter et que ce soit évacué quand il n'y a pas les routes. Des desserts agricoles, ça sera difficile à cette femme de pouvoir évacuer ce qu'elle produit. Merci beaucoup, Olivier, de ces témoignages et toutes ces précisions que tu écoutes dans la province de Bandundu. Madame Prudence, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi Madame Béatrice de Kisangani tout à l'heure. Elle a évoqué qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire aujourd'hui pour la femme, au-delà de tous les cas d'insécurité, les viols, les violences domestiques, l'alcoolisme de l'homme. Voilà autant de problèmes qui font aujourd'hui que cette femme ne puisse pas s'épanouir. Alors, elle a proposé aussi parmi les solutions, les maisons d'écoute où la femme peut être écoutée et peut être orientée. Alors, pour la province du Sud-Kivu, vous militez dans toutes ces structures, n'est-ce pas, de promotion de droits droits de la femme. Aujourd'hui, y a-t-il des efforts sur terrain pour permettre à cette femme rurale du Sud-Kivu d'être autonome, de produire et de jouer son rôle comme il faut dans la lutte contre la pauvreté aujourd'hui? Y a-t-il des efforts que vous observez dans la société au Sud-Kivu?
Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi Olivier, j'ai suivi Madame la directrice de la COCAFEMG qui pilote l'organisation appelée ISCOD dans la province orientale. Et moi, je suis au Sud Kivu, au sein d'une organisation appelée COFAS, qui est aussi membre de la même plateforme où nous militons, nous tous, la plateforme régionale, la COCAFEMG, j'ai dit. Concernant la question que vous venez de poser, je voudrais juste vous dire que tout ce qui vient d'être dit, que ce soit par Olivier ou que ce soit par Madame Béatrice, est vrai. Tous les éléments, que ce soit des maisons d'écoute, que ce soit d'autres dispositions à mettre en place, non seulement dans la prise en charge, mais aussi dans des éléments comme le plaidoyer en faveur de la femme, non seulement au Sud-Kivu, mais dans la République démocratique du Congo en général, est important. Je vais ici insister sur une question, c'est beaucoup plus celle de la compréhension de la notion du genre. Allô?
Allez-y, on vous écoute, madame.
La notion de la compréhension du genre.
Allô, madame, vous êtes avec nous? Oui, allez-y, je disais que vous êtes en direct. Vous avez dit, vous en
fichez. Sur Kivu ou ailleurs, il y a le fait de comprendre qu'il y a là-bas la notion de l'attribution des tâches que la communauté attribue à une certaine catégorie de sexe. Et là, c'est vraiment une très mauvaise chose que de considérer chaque fois que tout ce qui est tâche et qui ne donne pas ce qu'on appelle le pécunier est considéré comme étant du côté féminin. Mais quand ce pécunier commence à arriver, la femme, ça n'appartient plus à la femme. Et donc, quelque part, nous disons, il faut nécessairement accompagner la femme en lui donnant la responsabilité et en la laissant s'approprier de ce qu'elle a produit. Ça, c'est le premier accompagnement. Le deuxième accompagnement, c'est en rapport avec les plaidoyers que nous devons mener pour cette femme. Et ce plaidoyer doit beaucoup plus toucher la question en rapport avec la femme doit travailler, qu'elle soit au niveau du village ou ailleurs, mais comme nous parlons de la question beaucoup plus de la femme rurale, nous devons savoir qu'on doit la faire sortir de tout ce qu'on considère comme élément bloquant l'avenir, parce qu'elle le fait, c'est pour la communauté. Elle a aussi des enfants, et ces enfants, quand nous préparons notre communauté future. Et donc, puisque à travers elle, nous préparons la communauté future, il faut d'abord commencer par lui donner, elle, de la valeur. Lui donner de la valeur et l'approcher beaucoup plus et l'accompagner dans tous ceux qui ont à travailler avec elle. Et c'est là où je suis d'accord avec ce que Madame la Présidente a dit au niveau de Kisangani au sujet des coopératives. On ne pourra rien faire sans amener la femme dans des filières de production.
Voilà.
Et les filières de production sont beaucoup plus solides. C'est beaucoup plus solide. Par exemple, filière manioc, filière maïs, filière ceci, mais autour d'un accompagnement. Il ne faut pas le laisser n'importe comment, mais autour d'un accompagnement, tout en faisant comprendre que cela doit se faire dans la compréhension de l'aspect genre.
Alors, parce que vous avez évoqué la compréhension de l'aspect genre, Madame Béatrice a évoqué les maisons d'écoute d'orientation où les hommes doivent être aussi associés. Mais la plupart des cas, quand vous observez les actions qui sont menées sur le terrain, quand on dit nous menons ces actions pour les femmes, pour la femme rurale, alors la plupart des cas, les hommes ne sont pas assez associés. C'est ce qui fait des fois qu'on a des difficultés pour pouvoir épouser la dynamique, épouser une idée. Les hommes considèrent que non, voilà, ils sont venus on s'adresse aux femmes, cette histoire concerne les femmes, voilà, et puis tout ça. Mais est-ce qu'on peut avoir cette nouvelle vision quand on vient pour aider cette femme rurale, mais on ne l'aide pas elle seulement, mais on associe aussi l'homme, parce que si l'homme ne l'accompagne pas d'abord au niveau du foyer, ça sera difficile même que les interventions extérieures puissent porter le fruit auprès de cette femme.
Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si nous n'allons pas avec l'homme? Est-ce que vraiment la femme peut s'en sortir si l'homme n'a pas compris?
Mm-hmm.
Je m'excuse de vous retourner la question. Et c'est une question de réflexion pour nous tous. Je crois personnellement qu'il faut d'abord que la femme se sente être comprise par l'homme.
Mm-hmm.
Et ensemble, c'est pourquoi je reviens tout le temps sur la notion du genre.
Du genre, oui.
Et ensemble, nous avançons pour le développement de notre communauté.
Mm-hmm.
Et justement, que ce soit des maisons d'écoute ou ailleurs, il faut notamment qu'on sente l'apport de l'homme.
Oui. Voilà, ça c'est important.
Parce que c'est l'homme qui ira faire comprendre aussi aux autres hommes et même à la communauté en général. Puisque ne vous en faites pas, il y a aussi beaucoup de femmes aussi qui n'y comprennent rien.
Oui. Voilà.
Et donc, c'est un travail à faire à trois niveaux.
Oui.
On doit trianguler avec l'action. On doit aller vers les hommes et on doit aussi aller vers les autres femmes qui ne comprennent pas. Et ces hommes-là doivent aussi aller vers d'autres hommes et même vers d'autres femmes qui n'ont pas compris. Vous savez que lorsqu'une femme l'entend du côté de l'homme, lorsqu'une femme entend cette explication-là, cette façon de comprendre la chose, la question du genre, de la bouche d'un homme, elle devient beaucoup plus attirée.
Mm-hmm.
Elle se dit, tiens, parce que la femme a toujours considéré, il y a d'autres femmes qui considèrent que on n'en est pas encore à la période, à l'époque. Il y a même qui disent, on a ces histoires des blancs, ça appartient à d'autres cieux. Il faut que les femmes et les hommes et beaucoup d'autres femmes comprennent que voici le moment, nous ne pouvons pas laisser le train partir.
Mm-hmm.
Si nous laissons le train partir, ça signifie tout simplement que nous vivons à vase clos.
Mm-hmm.
Et donc là, nous voulons amener notre pays à vivre à vase clos.
Mm-hmm.
Et là, ce n'est même pas, là il faudrait que je sois comprise, ce n'est pas une question d'être intellectuel, c'est une question d'être pragmatique.
Oui. Voilà.
Il faut être pragmatique et comprendre où nous sommes, où nous allons et où, qu'est-ce que nous voulons être. Et dans le qu'est-ce que nous voulons être, je reviens sur un élément qui a été dit avant, j'y reviens en insistant sur la question de la sécurité et la question de l'intimité. Si nous voulons aider la femme, nous devons beaucoup jouer sur la sécurité et l'impunité.
Oui.
Nécessairement. C'est un grand chantier, l'impunité. Il faudrait vraiment que nous avancions de ce côté-là et que les hommes et les femmes qui sont capables de faire le plaidoyer pour cet aspect-là, le fassent pour le développement de notre pays.
Mais
tout se résume par la connaissance de ce que doit faire, où nous voulons aller et
merci.
Qu'est-ce que nous voulons devenir.
Merci beaucoup, Madame Prudence de Bukavu. La femme rurale, il faut d'abord aller par la compréhension du genre, n'est pas abandonner la lutte contre l'insécurité qui fragilise cette femme en milieu rural, l'impunité, parce que vous savez, si ceux qui se commettent de violences, les violences sexuelles sur la femme rurale dans nos villages, les femmes qui sont violées, qui sont traumatisées, s'ils ne sont pas punis, ça sera difficile que les autres femmes puissent avoir le courage. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Quelle est la place aujourd'hui de la femme rurale dans la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté? Qu'est-ce qui doit être fait? Beaucoup de propositions dans cette émission. Nous avons aimé Nina Koukieta Isiro, Madame Angélique ici à Kinshasa, 081-890-4960, c'est le numéro d'appel. Mais en attendant, on va écouter Aimé Nina Kou. Vous êtes à Isiro, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, je crois que c'est Biro.
Oui, c'est Biro, oui. Mais alors, qu'est-ce qui doit être fait à Isiro pour permettre à la femme de jouer son rôle, de contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté?
Moi, et bon, je vois que la femme d'Isiro est exposée à des différents problèmes qu'elle doit confronter. Entre autres, la pauvreté qui frappe, il y a l'insécurité, il y a les viols dans des quartiers périphériques. C'est pourquoi, comme piste de solution,
mm-hmm.
moi, je vois que la femme elle-même doit se donner la valeur Et si nous voyons dans des foyers, dans des foyers des villageois, vous voyez que la femme est vraiment menacée, surtout par les hommes. Vous voyez, si un homme part, il boit, il réveille le soir, il foxe sa femme. Il ne donne pas la valeur à sa femme. Il se permet même de compter sa femme parmi ses biens. Donc la femme n'a pas de valeur. C'est pourquoi il doit avoir une forte sensibilisation des deux côtés, des côtés des hommes et de la femme, de l'homme et de la femme. Donc sensibiliser des hommes afin qu'ils donnent la valeur à la femme. Sensibiliser aussi la femme afin qu'elle se donne la valeur, qu'elle ne se laisse pas faire par des péripéties qui frappent. C'est pourquoi je voulais dire que le gouvernement aussi doit s'impliquer dans ces problèmes pour que la situation soit régulière.
Merci beaucoup, Néa, de nous avoir appelé d'Isiro. Vous estimez que la pauvreté extrême dans laquelle la femme se retrouve à Isiro, l'insécurité, il y a les problèmes de violence domestique aussi. Madame Béatrice Kisangani a évoqué l'alcoolisme de l'homme qui est souvent à la base de la fragilisation de la femme dans un milieu rural, ce qui ne permet pas à cette femme de jouer son rôle et de lutter efficacement contre la pauvreté et la faim. Merci, mais Madame Angélique, on va vous accorder la parole, le temps de rappeler encore le contact 081-890-4969 si vous avez besoin d'intervenir en direct.
Radio Kapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Madame Angélique, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Perrault.
Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a beaucoup de tares, si je peux utiliser ce terme, qui font aujourd'hui que la femme en milieu rural ne parvienne pas à jouer son rôle comme il faut, mais aussi beaucoup de pistes, des solutions, beaucoup d'idées positives de la part des différents interlocuteurs et interlocutrices. Alors dans ce que vous faites comme travail aujourd'hui, quels sont les axes prioritaires que vous définissez pour permettre à la femme rurale de jouer vraiment ses rôles de la lutte contre la faim et la pauvreté?
Ok, merci de la question, mais je voudrais vous dire d'emblée que, comme on parle de la femme rurale, Madame Angélique se retrouve maintenant à une centaine de kilomètres de la ville de Kinshasa dans sa ferme au plateau de Bateke, plus précisément à 3 kilomètres de Ndakwa-Pembe. Mm-hmm. Et je suis contente de passer cette émission à ce lieu parce qu'on parle de la femme rurale.
Ça, c'est bien.
Je suis dans la récolte de manioc,
voilà.
Et je suis venue surveiller ce travail-là.
Mm-hmm. Ça,
par rapport à la question, les axes prioritaires par rapport à la femme rurale, c'est d'abord encadrer cette femme-là,
mm-hmm.
faire voir à cette femme que le travail qu'elle est en train de faire, c'est un travail capital. Parce que c'est le résultat de ce travail, c'est ce qui fait nourrir la population. Sans le travail de la femme rurale, en ville, on ne va pas manger.
Mm-hmm.
Parce que ce soit les légumes, le fruit, le manioc, les haricots, tout c'est produit par la femme rurale. Et c'est une femme qu'on doit valoriser et c'est vraiment un axe prioritaire auquel on doit donner beaucoup d'importance pour valoriser cette femme rurale.
Mm-hmm.
Mais je suivis des interventions, la présidente, je n'ai pas suivi parce que vous m'aviez pas mis en ligne à temps, mais je suivis maman présidente, je viens de suivre la dame du Siro. Je pense que la femme rurale, il faut la valoriser. Il faut lui donner sa place. Parce que c'est une femme qui se bat et qui travaille d'une façon rudimentaire, d'une façon archaïque, là, avec la houe. Elle n'a pas le matériel de travail. Elle n'a pas le matériel modernisé. Elle travaille comme dans les temps anciens. Et cette femme-là est toujours dynamique. Elle se réveille à 4 heures du matin, elle fait quelque chose pour sa maison, elle se rend en forêt au champ pour travailler, elle revient le soir fatiguée, elle commence le travail de ménage et il y a encore un travail qui l'attend sur le lit. Et cette femme-là, il faut la valoriser. Moi, je pense qu'au sein de notre organisation, nous sommes en train de voir comment donner plus de valeur à cette femme rurale pour qu'elle soit valorisée. Et nous louons cette journée des Nations Unies qui a pensé à instaurer une journée pour la femme rurale. Et c'est à nous d'aller vers ces femmes-là. sensibiliser ces femmes-là, leur dire que vous êtes reconnues dans le monde, on vous a réservé une journée pour vous donner de la valeur, vous devez profiter de cette opportunité, mettre en valeur votre travail et suivez ce que nous on vous dit pour que vous-même vous parveniez à prendre la parole et parler de vous-même, donner vos besoins, vos sensibilités, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez que le monde puisse faire pour vous, afin que vous puissiez être reconnu et que votre travail puisse être valorisé. Voilà donc un peu brièvement vous donner mon idée par rapport à ce qu'on est en train de faire.
Voilà, Madame Angélique, c'est d'abord très bien que vous puissiez intervenir dans la ferme où vous êtes en train de récolter les manioc en ce moment. C'est ça, même le travail, le rôle de cette émission, cette expérience et ces échanges entre les uns et les autres. Mais alors, depuis le début, Madame Gogo, qui nous a appelé de Goma, Madame Béatrice de Kisangani, Olivier de Kikuit a insisté sur ça, Madame Présidente aussi, sur l'encadrement de la femme. Alors, on estime qu'il faudrait aujourd'hui faciliter cette femme, qu'elle se retrouve dans des coopératives. Y a-t-il aujourd'hui des modèles de coopératives de femmes où on a vu des femmes évoluer vraiment, avoir accès à des microcrédits qui leur ont permis, dans leur milieu, de pouvoir travailler, de pouvoir produire? Y a-t-il des modèles, ou bien c'est toujours de manière disparate, que cette femme rurale se bat dans la lutte contre la pauvreté et la faim?
Oui, permettez-moi de le dire, hein, j'ai une petite expérience par rapport aux femmes de l'Afrique de l'Ouest, parce que avant j'étais dans le mouvement syndical, j'ai beaucoup fait l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo, Lomé, donc Burkina, Guinée, Sénégal, j'ai fait ce pays-là, et j'ai travaillé sur le département femmes, j'allais sur terrain dans ces pays pour voir l'expérience des femmes, je pense qu'ils sont plus avancés. Et toutes les femmes que vous venez, la majorité des femmes que vous venez de citer les noms, je leur donne toujours cet exemple de l'Afrique de l'Ouest et je demande toujours à notre Coca-Femme-Gel d'organiser un jour une descente sur terrain vers l'Afrique de l'Ouest, voir l'expérience de ces femmes, que ce soit sur le plan microcrédit ou sur le plan des coopératives agricoles. Elles sont très organisées et ça marche très bien, même dans le cas de microcrédit, elles prennent des crédits, elles remboursent facilement sans problème et elles reçoivent leurs bénéfices au retour. Mais chez nous, c'est un peu difficile, mais nous devons faire un effort d'organiser ces femmes-là, de former et de sensibiliser ces femmes par rapport au microcrédit et par rapport aux coopératives. Parce que quand on est en coopérative, on réussit un peu facilement l'expérience que j'ai vue en Afrique de l'Ouest. Et quand on est l'individu, quand il tombe malade, tout est bloqué, tout est fermé. Et quand on est en groupe, même si on est malade, les restes continuent le travail et on finit, on a un résultat. Quand on est malade, tout est bloqué, tout est freiné, on n'avance pas. Donc voilà, je pense que c'est notre travail, nous devons sensibiliser, nous devons former et nous devons dire aux femmes que c'est important de travailler en coopérative, c'est important d'avoir des microcrédits, mais il faut savoir gérer ces microcrédits.
Et ça, effectivement, c'est le travail d'encadrement. Peut-être la dernière question, mais Olivier tout à l'heure lui a dit toute la responsabilité revient au pouvoir public de pouvoir permettre à cette femme rurale de s'épanouir, de se retrouver. Alors, dans votre plaidoyer, quelle est la part des responsabilités du pouvoir public dans la valorisation de ces travail de la femme rurale, madame? Ce doit faire en principe le pouvoir public au-delà de ce que les ONG font, de ce que les médias font, ce que nous faisons. Alors, la responsabilité du pouvoir public aujourd'hui, ça résulte en quoi?
Oui, notre plaidoyer, je pense que les amis l'ont dit, est axé plus vers les autorités publiques, vers l'État. C'est-à-dire que même dans ce pays où je donne l'exemple, dans le cas de microcrédit, c'est pas le privé, c'est pas les ONG qui donnent le microcrédit, mais c'est l'État qui organise et qui met le moyen à la disposition de la population, des femmes rurales, des femmes travailleuses qui sont dans le monde rural. Et je pense que c'est cette responsabilité-là qui doit interpeller nos autorités. Ils voient comment les femmes rurales vivent, comment elles travaillent, comment elles manquent de moyens, elles manquent de finances, et comment les autorités doivent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils doivent s'organiser, aller vers ces femmes-là, aller vers la base, aller vers le village pour savoir comment les gens sont organisés, quelles sont leurs idées, récolter les idées de ces hommes et de ces hommes de la base au village,
oui,
dans le milieu intérieur, pour savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent travailler. Et à ce moment-là, de ces idées, ils vont faire sortir le résultat pour mettre le moyen à la disposition de ces personnes-là pour que cesse la pauvreté dans notre pays.
Merci
parce que
beaucoup.
Sans cela, nous sommes là dans la sensibilisation parce que nous travaillons avec le moyen de voir que nos bailleurs de fonds mettent à notre disposition.
Mm-hmm.
Mais nous n'avons pas le moyen de donner le financement à ces femmes-là. C'est l'État, c'est le travail de l'État de mettre le moyen financier à la disposition de ces femmes, de ces travailleurs-là de monde rural. Et l'État doit aller vers ces hommes-là pour savoir leurs besoins, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils peuvent organiser le travail de ces gens-là.
Merci beaucoup, Madame Angélique. Continuez à travailler. Vous êtes en train de récolter les manioc en ce moment à 30 km de Kinshasa, sur le plateau des Bateke. Félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup de cette intervention en direct sur les antennes de Radio Capi. Dans Parole aux auditeurs qui se penchent aujourd'hui sur la femme rurale, comment l'impliquer dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Nous allons écouter Madame Bernadette qui est à Lubumbashi dans la province du Katanga. Madame Bernadette, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns, les autres. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait une compréhension mutuelle entre la femme qui vit en milieu urbain et la femme en milieu rural? Parce que la plupart des cas, il y a un fossé, on peut dire ainsi, entre les discours que nous tenons en milieu urbain et la femme, des fois, qui est en milieu rural, considère c'est une autre femme qu'elle vient avec ses idées nous imposer, nous qui sommes au village. Mais vous qui travaillez, qui êtes sur terrain, y a-t-il une compréhension mutuelle entre les deux femmes pour permettre à ce que celle qui est en milieu rural, effectivement, reçoive ces idées que vous amenez dans la sensibilisation et lui permettre ainsi de jouer son rôle comme il faut, madame?
Merci beaucoup pour cette question importante. Moi, je pense qu'il n'y a pas totale compréhension entre la femme du milieu urbain et la femme du milieu rural. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de notre lutte.
Mmh.
Nous devons amener cette compréhension vers la femme rurale, puisque vous savez que plus de 70% de la population de notre pays se trouve en milieu rural, et que la femme rurale est le pilier de l'économie rurale.
Oui.
Et si on pouvait négliger cette femme, on ne parlera pas de développement dans notre pays.
Mm-hmm.
Moi, je pense que la lutte que nous menons comme femme du milieu urbain, nous devons amener cette lutte vers la femme rurale. Et je vous dis, à ce qui nous concerne, le réseau Femmes et Développement, le REFEC Katanga, depuis 2005, développe un programme vers la femme rurale.
Mm-hmm.
Ce programme est tellement ambitieux qu'il a commencé d'abord par permettre à la femme rurale de prendre accès à la parole en public, de participer aux décisions communautaires de sa communauté et d'également être elle-même porteuse des actions de plaidoyer dans son milieu, dans son environnement. Je pense que nous avons fait beaucoup et il y a beaucoup de résultats sur ce point-là. Et ces femmes que nous avons encadrées jusqu'à aujourd'hui, elles sont capables non seulement de nous attendre, nous, pour les accompagner dans le processus de plaidoyer, mais elles font déjà leur propre plaidoyer. Vous savez, la province du Katanga a trop de problèmes à ce qui concerne le domaine de l'agriculture, puisqu'aujourd'hui, nous disons l'autonomisation des femmes rurales pour le développement de l'agriculture familiale en vue d'accroître la production agricole pour lutter contre la malnutrition et la faim en herbe. Ce thème est excessivement important pour les Katanga. Je pense que vous savez qu'il y a des moments où on a dit les Katanga manquaient la farine, alors que c'était la denrée alimentaire de base du Katanga. Et qu'il y avait des pénuries de farine. Régulièrement, chaque année, ça se passe ainsi. Mais si on pouvait encadrer la femme rurale d'une manière conséquente, c'est-à-dire notre plaidoyer que la femme qui puisse avoir un budget conséquent pour le domaine de l'agriculture dans notre pays, puisqu'on a toujours négligé ce budget à caractère agricole, qu'on puisse avoir une politique adéquate une politique agricole, bien sûr, et foncier adéquate. Pourquoi j'insiste sur le foncier? Parce que le Katanga a un problème de délocalisation, d'expropriation de terres, de pollution de champs et de plantes par les entreprises minières. Vous n'ignorez pas ça.
Oui.
Il faut qu'Afi en parle régulièrement. C'est pour cela que je dis qu'il y ait politique aussi dans le domaine foncier qui protège la femme rurale dans l'agriculture, parce que sans la terre, la femme rurale ne va pas cultiver. Sans l'eau, la femme rurale ne va pas cultiver. Heureusement, aujourd'hui, nous nous sommes réveillés sur la ville de Lubumbashi. Il a plu abondamment pour la première fois, et c'est le jour où nous avons cette émission sur la femme rurale.
Alors, voilà, en fait, voilà, mais
ce que j'ai dit, c'est l'un des objectifs de notre travail maintenant, amener la préoccupation que nous avons en ville vers la femme rurale, améliorer les connaissances de la femme rurale pour la permettre à mieux produire, améliorer ses opportunités de production pour la permettre également à nous produire.
Alors, c'est important ce que vous avez dit, madame, en évoquant le contexte particulier du Katanga, par exemple. C'est le problème aussi qu'on peut avoir au Kasaï, même dans d'autres provinces où il y a une forte exploitation minière. On estime plus on tourne toujours autour des exploitations minières, on oublie l'agriculture. Et là, la femme, elle fait face à des problèmes très sérieux. Vous avez évoqué la délocalisation des populations. La femme rurale qui ne peut pas trouver le moyen de pouvoir cultiver parce qu'il y a des gens, il y a des cartes d'exploitation minière, il y a le problème de pollution, tout cela. Mais est-ce que vous estimez aujourd'hui, un peu rapidement, peut-être en 30 secondes, vous estimez que les efforts que vous fournissez peuvent apporter des résultats et que cette femme qui connaît ses difficultés en milieu où elle exploite les minéraux peut un jour s'épanouir et jouer ses rôles correctement d'une manière un peu plus brève?
Oui, c'est notre lutte actuelle. Nous avons mené des plaidoyers. Nous sommes en train même, nous avons initié même un avant-projet d'audit que nous avons introduit sur la présence de la femme, les causes de la présence de la femme dans les sites minières artisanales et de l'enfant. C'est catastrophique au Katanga. Plus de 12 000 enfants dans les sites minières artisanales et que nous avons couvert 43 dans un projet. Plus de femmes dans les sites minières artisanales avec enfants, allaitantes, les grossesses, des enfants mal formés où le nombre élevé des avortements, c'est anormal. Nous menons ces plaidoyers. Je pense que le résultat sera très efficace.
Merci.
Nous avons eu les députés qui nous ont promis qu'ils sont engagés dans notre élite, comme par exemple le sénateur Kabamba Fataki et amiral de Tanganyika. Il a dit, madame, je m'engage au niveau national dans cette élite. Le député provincial Diem Ngandu de l'Assemblée provinciale du Katanga nous a promis qu'il s'engage dans la lutte.
Alors, on va amener la proposition
de dit au Parlement.
Merci beaucoup, madame. Nous souhaitons que cela marche et qu'on puisse sécuriser cette femme qui se retrouve dans les sites d'exploitation en minière et lui permettre aussi de jouer son rôle comme il faut. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Madame Kenneth, dans la même ville, on voudra vous accorder la parole. Comment impliquer la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté et la faim? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Madame Kenneth, vous suivez l'échange depuis les débuts, beaucoup d'idées, des difficultés aussi auxquelles la femme fait face en milieu rural pour lui permettre de jouer son rôle. Mais comme nous tendons vers la fin de l'émission, alors dans les propositions concrètes, dans tout ce que vous faites, alors d'une manière plus efficace, quelles doivent être les interventions, que ce soit des partenaires du pouvoir public aujourd'hui, pour permettre à cette femme rurale de jouer son rôle comme il faut et contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté? C'est Madame Kenneth, s'il vous plaît, gardez la ligne, on va revenir à vous. Le temps que Maurice, qui était là avant vous, place les mots. Maurice, on a écouté les femmes, les hommes, mais alors pour vous, comment cette femme rurale peut jouer son rôle comme il faut? Maurice, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot. Je voudrais dire, commencer d'abord par observer quelque chose. Vous savez, j'ai suivi l'émission depuis son début. Je voudrais vraiment féliciter d'abord la femme congolaise. Vous savez ce qui se passe dans le pays ici. Certains, ceux qui ne connaissaient pas ce pays, pensait qu'il n'y avait pas une élite intellectuelle féminine dans ce pays. Au regard des violences, des violations des droits de l'homme faites à la femme congolaise, cette femme était violée quotidiennement. Et le pays aujourd'hui est réputé capitale mondiale du viol. Je voudrais rendre hommage à cette femme. Leur dire que, très chère maman, nous vous aimons, nous vous soutenons, malgré que nous n'avons pas cette capacité, cette puissance de vous défendre dans tout ce que vous subissez comme violence en longueur de journée. Et pour intervenir par rapport au sujet du jour, je voudrais dire ceci. Ce qui se passe dans le pays, c'est cette absence de la politique cohérente, politique responsable. La femme rurale, comme nous, la dame qui est intervenue juste avant moi, disait que, en fait, la population à 70% congolaise est constituée de, plutôt se trouve en milieu, vit dans, en milieu rural. Mais ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous avions toujours dit, à travers même dans d'autres thématiques que nous avions développées dans cette radio, dans cette émission plutôt, qu'il y a un problème même dans les investissements. Comment aujourd'hui on peut admettre qu'on va mettre plus de 100 millions, plus que ça, des 150 millions, on va investir sur un seul projet. Prenons par exemple le projet de Bukangalonzo. Je ne sais pas dans ce projet quelles sont les femmes qui vont y travailler. Nous avions souhaité que ces investissements, cet argent, par exemple les 180 millions de dollars américains investis dans un seul projet, soient dispatchés à travers la République. Cette femme qui est abandonnée, qui va au champ, qui va cultiver, mais qui ne sait pas évacuer son produit, parce qu'il n'y a pas de infrastructures de communication, les infrastructures de terres agricoles qu'on peut construire à travers le pays, avec un budget qui ne va même pas avoisiner les budgets qui est investi à travers ces projets, par exemple, de Bukangalonzo, qui n'est que, par ailleurs, vraiment un projet propagandiste, qui n'aura même pas d'impact réel.
Alors, Maurice, parce que là, il nous reste 4 minutes, parce qu'il reste 4 minutes, il y a encore des personnes en ligne. Mais vous estimez qu'au-delà de toute la souffrance que connaît cette femme congolaise à qui vous avez rendu hommage, merci beaucoup pour ça dans cette émission, mais vous pensez qu'on devrait avoir une politique cohérente qui permette à ce qu'aujourd'hui, au lieu d'investir autant de millions pour un seul projet, permettre à ce qu'on puisse accorder des microcrédits aux femmes rurales, aux femmes dans leur milieu, encadrer ces femmes, leur permettre d'avoir des voies d'évacuation des produits agricoles, Olivier Dekipit le disait tout à l'heure, et comme ça le pouvoir public aura aidé la femme rurale à contribuer vraiment à la lutte contre la pauvreté et la faim. Maurice, c'est vraiment important ce que vous avez dit, mais permettez aussi à Madame Kenneth Kétichia Kinshasa de placer les mots et de haut grâce à ceci dans la même, ici dans la capitale, parce qu'on va terminer cette émission. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est important, Maurice. Alors, Madame Kenneth, vous êtes ici à Kinshasa, vous avez suivi Maurice tout à l'heure. Il estime que le pouvoir public devrait en principe avoir des projets de financement qui permettent à ce que cette femme soit encadrée. Alors, pensez-vous aujourd'hui que ce message est assez écouté, vous qui menez des plaidoyers auprès du pouvoir public pour permettre à la femme rurale de jouer ses rôles comme il faut, Madame Kenneth?
Le plaidoyer est écouté parce qu'il y a d'un côté le discours, mais nous attendons au concret, c'est-à-dire à la mise en œuvre, à l'effectivité de ces discours. Je veux souligner ici que la femme rurale, tout comme la femme élite, contribue, c'est une partie prénomme comme n'importe qui dans le développement.
Oui.
Et pour atteindre les zones B, nous avons besoin des femmes rurales qui constituent le socle même du développement. Pour ne pas gaspiller le temps, je veux dire que la solution demeure, bien sûr, dans ces projets, développer des projets qui tiennent compte des formations intégrales et fonctionnelles. Quand je dis formation intégrale et fonctionnelle, je vois une femme rurale qui se débrouille déjà bien, à qui on dote un moyen, une capacité de lecture et d'écriture, qu'elle doit parvenir à comprendre les différents crédits qu'on lui alloue, et puis, quand les signer, les contours de tous les contrats qu'elle doit signer, si elle ne sait lire ni écrire, c'est un problème.
la formation intégrale par rapport à ses ressources, par rapport à sa production. Tout cela doit tenir compte, pris en compte dans le projet que le gouvernement devra développer mm-hmm. en faveur de cette femme rurale.
Voilà.
Mais sinon, il y a aussi une manière de réglementer ce secteur des femmes rurales à part les projets. On dit les projets, mais les contenus des projets, il y a un peu ce que j'ai dit, les formations. Il
Merci.
Faut mm-hmm. arranger les routes, les prédécesseurs l'ont soutenu, pour faciliter l'évacuation mm-hmm. des produits pour celles qui font les travaux champêtres. Et aussi, il y a un côté qu'on néglige le plus. Une fois que le SMIC, le salaire du fonctionnaire de l'État, est réajusté, cette femme rurale qui a peut-être son mari qui travaille ou qui elle-même aussi pourrait être fonctionnaire en même temps et voir dans un secteur donné, se verra prise en charge parce qu'aujourd'hui, la femme rurale contribue comme la femme
oui. n'importe merci, quelle merci femme beaucoup,
à travers la TVA qui mmh. est une taxe obligatoire.
Merci,
elle contribue
merci.
Et elle attend
merci beaucoup, madame
une prise
Kenneth.
En charge
merci.
Costaud qui mmh. résout son problème à partir de l'encadrement que ce gouvernement fera de cette femme rurale dans son secteur de développement.
Merci, merci beaucoup, madame Kenneth, parce que là, on est bousculé par le temps. De haut, grâce à ce GTC qui casse ça, vous avez suivi les uns et les autres. On termine déjà l'émission. Mais est-ce que vous pouvez placer juste un mot, une phrase en 20 secondes de haut, grâce à, autour de la valorisation de la femme rurale? En 20 secondes, de placer votre mot, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais juste évoquer un aspect très, très important, qui est celui de l'autonomisation économique de la femme.
Oui.
Monsieur Perrault, acquérir une autonomisation économique, c'est pour les femmes de disposer des moyens de participation au processus de croissance qui contribuer d'en tirer profit d'une manière qui leur assure la reconnaissance de la valeur de leurs apports et le respect de leurs unités,
oui.
ainsi que la possibilité de négocier une répartition plus équitable des bienfaits que procure la croissance.
Merci.
Maintenant, la participation des femmes à l'économie et la croissance de leur pouvoir d'action dans ce domaine.
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Deo,
et leur permettre d'avoir la maîtrise de leur vie.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Deo, gracias. En tout cas, ça a été important. Le débat était très très important. Nous vous disons merci. Vous avez été très nombreux à contribuer à cette émission. Honneur aux dames. Vous avez été nombreuses aujourd'hui dans parole aux auditeurs. Nous vous disons merci. On va se retrouver la semaine prochaine. Vous allez retrouver J.R. Lungembo pour la suite des émissions parole aux auditeurs. À qui nous disons d'ailleurs merci. Et merci aussi à Guy qui a assuré la mise en onde de Pierrot et la Meiji. Vous a présenté cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. Il me reste pour le moment vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.